Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Tinsberg a 21 ans. Elle a été Jeanne d'Arc. Elle vient de tourner à bout de souffle et va devenir l'emblème de sa génération. Tout de suite, elle est tombée amoureuse.
Jusqu'à 22h,
Romushka n'a pas résisté. C'est un cadeau de la vie. À nouveau, il renaît. Jean l'émeut, elle l'effraie.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle veut le mariage, il hésite. 24 ans les séparent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Jean Seberg, Jean Seberg et Romain Gary dans la voix sensuelle et comment, ô combien délicieuse d'Emmanuel Béart. Tiens, c'est l'un des mariages les plus glamour, les plus mystérieux du XXe siècle que l'on va vous raconter dans la curiosité avec notre invité, le grand reporter au journal Le Monde, Ariane Chemin. Alors nous sommes le 16 octobre 1963 et ces deux-là vont s'épouser en Corse dans un petit village. On va dire quel personnage c'était dans la France de cette époque et dans le monde aussi. Deux immenses stars,
Romain Gary d'abord, prix Goncourt, un formidable écrivain, une gueule, un diplomate aussi. Il vient d'être nommé, il a été nommé consul de France à Los Angeles. En fait, il est monsieur Hollywood, grande culture, et il a voyagé dans tous les pays du monde. Et puis ce Goncourt qui est venu le couronner. Et comme il ne déteste pas ni les caméras, ni les micros, il a su se montrer comme il fallait. Et puis Jean Seberg, une très jeune actrice, découverte par Otto Preminger à Hollywood au terme d'une sorte d'exercice de télé-réalité avant l'heure.
Immense casting
où des milliers d'Américaines se sont précipitées pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc. Et elle passe un bout d'essai, et c'est vrai que j'ai revu le bout d'essai, elle est merveilleuse, parce qu'elle a à la fois de l'aplomb, elle a cette coupe de cheveux qu'on lui connaît évidemment, qui a fait tout son charme et toute sa légende, et elle papillonne un peu des yeux, mais avec cet air intelligent, parce qu'elle est très intelligente, elle est un peu mutine, et c'est vrai qu'Otto Preminger a vu défiler des tas de filles, et tout d'un coup il dit arrêtez tout, c'est elle, et il l'a choisie.
Alors en couverture de l'histoire que vous publiez aux éditions Équateur, Mariage en douce, Gary et Seberg, on les voit tous les deux. Ils ressemblent à quoi? Vous pouvez nous les décrire?
Alors j'adore cette photo parce qu'elle est prise à quelques mois du mariage. Il n'y a pas de photo du mariage comme on sait, mais celle-ci, elle a été prise pour une publicité d'Air France d'ailleurs, d'Air France. Et lui, d'abord, il a cette tête, ce visage d'homme
brun,
un peu de l'aise, brun, la peau mate, très viril. Il approche la cinquantaine, mais il est un petit peu mystérieux. Et elle
n'a pas moustache, une fine moustache.
Fine moustache d'Hidalgo, un peu, effectivement. Très beau, un visage de lanceur de couteau. Et puis elle a laissé pousser un petit peu les cheveux qu'elle avait beaucoup plus courts pour jouer dans le film qui l'a rendu célèbre, à bout de souffle, parce qu'en fait, elle a regagné Paris pour rejoindre Romain Gary. Et Romain Gary veut qu'elle ressemble un peu à Grace Kelly ou aux actrices d'Hollywood. Et en fait, il la transforme. Il l'emmène chez les couturiers, il l'habille après les plus grands défilés et il lui demande de laisser pousser ses cheveux. Et
il modèle la femme de sa vie, en quelque sorte.
Un peu. Il est un peu Pygmalion. Et à vrai dire, ça convient très bien à Hollywood qui dit, bon, écoutez, à bout de souffle, tout ça, c'est bien gentil, la nouvelle vague, mais il faudrait quand même retrouver un rôle aux États-Unis. Et tout ça se combine pour faire de Jean Seberg cette jeune femme qui a l'air un peu fragile, un peu évaporée, ravissante évidemment, avec ses cheveux qui ne sont plus si courts.
Il y a une différence d'âge entre les deux ?
Énorme, quasiment un quart de siècle, puisque elle a 24 ans, lui 49. Ils ont déjà été mariés tous les deux, et c'est ce qui rend ce mariage si compliqué au fond, et ce qui va le rendre si mystérieux, puisqu'ils ont décidé de se marier loin de tout.
Alors, il y a une autre photo dont vous avez parlé rapidement tout à l'heure. C'est le fils de Jean Seberg et Romain Gary qui vous l'a confié, Diego Gary. Vous nous dites pourquoi elle est si précieuse, si importante, cette photo?
Parce que c'est la seule trace, au fond, de ce mariage. Il n'y aurait pas dû y avoir de traces, d'ailleurs. Et Romain Gary n'en voulait pas. C'est elle, Jean Seberg, qui a insisté pour qu'on prenne une photo. Et au fond, avant que Romain Gary ne la rende publique, on ne savait pas exactement comment s'était passé ce mariage. Et les gens du village de Sarola Carcopino n'avaient jamais vu cette photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me l'a confié. Je suis montée au village avec la photo et j'ai adoré l'accueil qu'on me faisait, comme souvent dans les villages corses, où je suis avec ma photo et tout le monde s'est penché marcher dessus comme des bienveillantes au-dessus d'un berceau de nouveau-né. Et avec cette façon très particulière qu'ont souvent les personnes âgées dans les villages d'écraser leur index sur chaque personnage en expliquant qui ils sont.
Et ça ravivait des souvenirs, en fait, cette photo entre vos mains.
Non, ça ravivait le souvenir du maire, mais ça ne ravivait pas de souvenirs, puisqu'au fond, personne n'avait vu ce mariage, à l'exception d'une dame que je cite, qui s'appelle Martine Pierry, oui. Et qui, elle, avait compris. Elle est très curieuse, elle le dit encore aujourd'hui, elle adore savoir tout ce qui se passe, et elle a vu qu'il y avait une voiture qui arrivait, que le maire ouvrait les portes de la mairie. Elle a voulu s'approcher, et le maire l'a tenue à l'écart, en croisant ses bras devant lui, en lui disant non, non, etc. Elle a demandé le soir, mais il dit, c'était quoi? Qui mariais-tu? Et il a dit, c'était des étrangers.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était des étrangers, c'est la réponse qu'il y a.
C'est la réponse des étrangers, et oui. elle m'a dit... Je ne l'ai pas trouvé très beau, lui. Il devait venir de l'Est.
Ariane Chemin, alors, dans cette enquête que vous menez en Corse, justement, dans ce petit village, vous découvrez que Jean Seberg a donné des consignes à Romain Gary sur le choix du costume. Cette fois-ci, les rôles s'inversaient. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé?
Et parce que Romain Gary, il était formidable parce qu'il s'habillait comme un personnage de roman. Il jouait tout le temps son personnage.
Et comme un aventurier, c'est
comme
ça?
Un peu crado. Il avait visité le Mexique, il avait vécu sur la côte ouest des États-Unis, donc il était revenu avec des ponchos, des bobs de cow-boy. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont connu le voyaient souvent chez Lip. Il était chez Lip alors que la gauche était
restaurant parisien.
Restaurant parisien du boulevard Saint-Germain. Lui, il était chez Lip avec ses bottes de cow-boy et ses ponchos et ses feutres mous. Alors que, comme l'écrivain du régime qu'il était mais qu'il ne voulait pas vraiment être. Et puis en face, il y avait la gauche Saint-Germain-des-Prés qui était au flore et il ne se mélangeait pas à eux.
Romain Gary fait un geste étonnant. Lequel ? Sur cette photo,
il fait le V de la victoire parce que, en fait, ce mariage est une victoire. Mmh. C'est une victoire sur beaucoup de choses. D'abord, sur une femme et un homme qui ont été délaissés, puisque c'est un coup de foudre qui les a unis. Un victoire aussi, surtout, sur les paparazzis. Parce que l'idée, c'était de semer les paparazzis. C'est un mot tout nouveau qui vient d'apparaître et qui a été inventé par Fellini 3 ans plus tôt. Mais surtout, ce sont ces photographes qui viennent, quelques mois plus tôt, d'empoisonner le tournage du Mépris et de gâcher la vie de Brigitte Bardot. C'est un film que vous connaissez, qui a été tourné dans la villa de Malaparte. En fait, c'est cette fameuse villa à escalier qu'on voyait sur l'affiche du Festival de Cannes qui vient de se terminer. Et ces paparazzis veulent absolument saisir tous les clichés de ce qu'on n'appelle pas encore des stars, mais des vedettes. Et ce sont de vedettes. Et tous les journaux, on ne dit pas People encore non plus, mais tous les journaux de la presse parisienne, américaine, anglaise, veulent les photos de ce couple dont on pressent qu'ils vont se marier. Et il paraît impensable pour tous ces titres de presse, que ce soit Elle, Marie-France, Jour de France, etc., de ne pas avoir les photos du mariage. Donc les paparazzis sont aux aguets. Ça fait plusieurs mois qu'ils guettent le couple en bas de l'appartement qu'ils occupent rue du Bac à Paris, au pied de chez Gallimard où Romain Gary publie. Et ils n'avaient rien vu. Donc il faut les semer.
Alors, donc c'est une victoire sur ces paparazzis. Donc vous disiez inventé par Fellini dans son film 8,5, c'est ça?
Exactement.
Donc Romain Gary sur cette photo fait le signe de V, la victoire. Mmh. Et Jean Seberg a l'air un peu triste. Vous allez nous raconter pourquoi dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte le mariage en douce de deux immenses stars, l'écrivain Romain Gary, l'actrice Jean Seberg. C'est Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde, qui nous sert de guide, qui nous raconte cette histoire et qui publie aux éditions Équateur. Mariage en douce, Gary et Seberg, justement. Mariage en douce parce qu'il ne voulait pas de témoins, il ne voulait surtout pas de paparazzi. Il existe une photo de ce mariage, vous nous la décriviez tout à l'heure, avec donc Romain Gary qui fait ce petit V de la victoire parce qu'il a réussi à semer les paparazzi, et une Jean Seberg qui, sur la photo, a l'air absente. Pourquoi? Elle est peut-être pas très heureuse, en fait.
Une traîne de tristesse. Alors évidemment, ouais. C'est moi qui, à partir de la photo, imagine l'histoire. Mais je l'imagine. En fait, je me suis plongée. J'ai fait une sorte d'exégèse de leur amour, parce que à partir du mariage, je voulais raconter leur histoire d'amour,
bien
qui
sûr.
N'est pas banale. Je pense qu'elle est triste parce que d'abord le mariage arrive un peu tard. Elle voulait. D'abord, ils se rencontrent, ils ont un coup de foudre. L'histoire est pas banale. Lui est consul de France à Los Angeles. Il vit avec une Anglaise excentrique qui a tout fait pour lui, qui l'a aidé à écrire. écrire, qui lui a fait rencontrer les plus grands écrivains, qui s'appelle Leslie Blanche, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Et puis elle, elle a épousé un peu à la va-vite un Français très, très beau, à qui on prédisait la gloire d'Alain Delon, François Moreuil, qui aime le cinéma. Et ils se rendent ensemble chez le consul. Et la scène qui marque le début de leur amour me semble incroyable aujourd'hui. François Moreuil est un espèce de dandy, il s'habille très bien, très chic, il a des souliers magnifiques. Et Romain Gary, avec ses bottes de cow-boy, regarde les souliers du mari de Zensiberg et lui dit « Vous avez des mocassins magnifiques, puis-je les essayer ?» Et il met ses pieds dans les chaussures du mari de Zensiberg et c'est le début de la
quel
fin.
Symbole.
D'ailleurs, je me suis dit, au fond, c'est un peu comme dans le mépris, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Zensiberg a cessé d'aimer son mari?
Il lui vole ses chaussures et sa femme, d'une certaine
Exactement.
façon.
Exactement, il s'installe.
C'est le coucou.
le coucou. Il s'installe dans les chaussures de François Moreuil.
François Moreuil qui veut casser la gueule de Gary.
Oui, alors après, Gary, c'est toujours très, très, très rocambolesque avec lui. C'est un aventurier, il veut que tout ressemble à une fiction, à un film d'aventure. Et effectivement, François Moreuil veut casser la gueule. Il trouve Romain Gary ou Lutetia. Romain Gary vient avec un témoin qui a un flingue dans sa poche. Tout prend des allures incroyables. Zensiberg fait une crise de nerfs. Bref, le mariage se fracasse et les deux amoureux s'en vont un peu partout dans le monde, à Venise, un peu partout, fuyant les paparazzis sans les fuir, se laissant surprendre dans une gondole à Venise. Et c'est vrai que je crois que c'est là qu'ils vivent leur plus belle histoire d'amour.
Oui, parce que Zensiberg qui fait une crise de nerfs, qui est hospitalisé, et son mari n'a pas le droit de venir. Mais il y en a un autre qui va venir, c'est Romain Gary.
Il y en a un qui est plus inventif. On comprend qui est le romancier.
Plus aventurier.
C'est Romain Gary, plus aventurier, qui pique une bouse de médecin, qu'il enfile et qui vient rendre visite à Zensiberg. Et à ce moment-là, il a vraiment gagné.
Alors, cette histoire.
Ça, c'est le début de l'histoire d'amour.
Ouais, ça, c'est on va continuer de la raconter, cette histoire. Mais ce voile de tristesse, cette traîne de tristesse, comme vous l'appelez, Ariane Chemin, sur le visage de Zensiberg, sur cette photo de mariage, elle est due à quoi? À la violence de leur rencontre, aux émotions, à une certaine déception que ce mariage peut-être finalement ne se fasse pas en grande pompe, peut-être qu'elle en rêvait.
Beaucoup de choses. Leur voyage de noces, ils le font avant le mariage d'une certaine manière. Pendant 3 ans, ils vivent au bout du monde, tous les deux, enlacés. On les voit sur les photos. Ils sont merveilleusement heureux. Et elle veut l'épouser, mais lui, il est marié. Il est marié. Et cette histoire d'amour lui tombe un peu dessus. D'une certaine manière, je pense que cet homme qui était déjà très dépressif, Zensiberg, c'est le cadeau de sa vie. C'est-à-dire qu'elle retarde d'une certaine manière son suicide. Ils sont heureux. Et lui, il n'a pas pensé à se remarier. Donc il faut d'abord divorcer de Leslie Blanche qui dit de manière très sévère, je te préviens, je te préfère mort que divorcer de toi. Donc tout est compliqué, elle divorce beaucoup plus facilement. Mais... Et puis surtout, on a oublié la morale de l'époque. La morale de l'époque, aujourd'hui, on peine à penser que dans ces années du début du gaullisme, eh bien divorcer d'abord, c'est pas simple. Ensuite, quand on est diplomate, on ne peut pas être
un
homme
divorcé.
Ça fait mauvais genre. Quand on est diplomate, on ne peut pas être un homme divorcé. Et elle a signé à Hollywood un contrat draconien qui lui empêche d'être enceinte, qui l'empêche de se remarier. Et on n'imagine pas tout ça, mais tout est très compliqué. Et puis De Gaulle, pour Romain Gary, c'est quelqu'un. C'est-à-dire qu'en France, la morale gaulliste et De Gaulle... Et Romain Gary a très très peur d'Yvonne De Gaulle. Tant Yvonne, comme on l'appelait à l'époque, c'est pas rien.
Et donc ça retarde le mariage, d'une certaine façon, tout ça.
Je pense que ça traîne
cette conjonction,
beaucoup à cause de tout ça. Ouais. Et ce sont des années qui s'écoulent. Et Zensiberg, elle aurait aimé que ce mariage intervienne beaucoup plus vite, au début de leur histoire d'amour. Et puis, ce que personne ne sait, n'imagine, c'est que quand ils se marient, ils ont déjà un petit garçon qui a 15 mois.
Ariane Chemin, c'est une enquête que vous avez menée pour reconstituer cette histoire, et notamment l'histoire de ce mariage. Cette photo, vous avez trouvé l'homme qui tenait l'appareil, qui a appuyé sur le bouton, et c'est qui cet homme?
Je n'aurais rien su de ce mariage si je n'avais pas retrouvé effectivement l'homme qui prenait la photo. Et c'est vrai que ça, c'est un réflexe de journaliste qu'il faut avoir. C'est au fond, j'ai pensé qu'ils étaient 6, mais ils étaient 7. Et ce monsieur, qui a aujourd'hui 94 ans, qui s'appelle Domi Colonna Cesari, qui est un monsieur formidable, un ancien résistant qui ne parle jamais de ses faits d'armes comme tous les résistants, je l'ai retrouvé dans un dancing du sud de la Corse, dans un petit village qui s'appelle Riba, sur la plaine orientale. Et tous les dimanches, il va danser parce que c'est un formidable danseur de tango. Il a dansé d'ailleurs dans le monde entier, puisque c'est un ancien parachutiste, qu'il a voyagé partout, qu'il a fait la guerre au Vietnam, après avoir été résistant à 17 ans pendant la guerre de 40-45. Donc il a dansé partout, et là, sur le son d'un tango corse que j'adore, qui s'appelle Ultima Strinta. Il m'a raconté.
Ah ben voilà, il vous fait, il vous révèle ses secrets sur un air de tango. Vous allez danser et nous expliquer dans un instant. Rien de chemin. À tous les curieux.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL. Écoutez, si vous parlez de mon mari, j'estime que j'ai fait un très bon choix. J'ai fait un excellent choix en vivant à Paris, que j'aime beaucoup, et en restant en France.
La curiosité est un vilain défaut.
New York Herald Tribune!
De même que vous n'intervenez pas du tout dans son métier d'écrivain.
Oh, de temps en temps, je lui donne un coup de main. S'il m'écoute, oui.
Jusqu'à 22h,
c'est Gary qui perd sa liberté. Il découvre la vie de prince consort. On croit toujours au même sentiment, la jalousie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un mariage mystérieux, magnifique, que nous invite le grand reporter Ariane Chemin grâce à son livre Enquête, documentaire, Mariage en 12, Gary et Cyberg. C'est publié aux éditions Équateur. C'est intéressant parce que Diego Gary, le fils des deux stars, vous a confié une photo, la photo, l'unique photo du mariage. Et vous êtes demandé en bonne journaliste, mais qui a pris cette photo? C'est un certain Domi, un Domi qui est aussi appelé le colonel dans son village corse. Il vous invite à danser un tango et c'est là qu'il vous révèle des secrets, c'est pas banal, sur ce mariage. Quand il fait la photo, il sait qui il photographie?
Non, il ne sait pas. On lui a raconté quelques heures avant, mais ça ne lui dit pas grand-chose, Romain Gary et Jane Seberg. De même que le maire de ce petit village de Sarrola n'a jamais entendu parler ni de Romain Gary ni de Jane Seberg. Pourtant, Un bout de souffle a été donné au grand cinéma d'Ajaccio sur le cours Napoléon. Et Belmondo est venu lui-même faire la promotion de ce film. Mais voilà, le maire de Sarrola, c'est un paysan. C'est pas tellement dans son champ de vision. Voilà. Et donc, il ne sait pas. Il comprend simplement que ce sont des gens importants et que si le général Février, qui est son supérieur hiérarchique, lui demande, c'est qu'il faut le faire.
Alors Domi accueille ce couple mythique sur le tarmac de la basse Corse de Solène Zara. Quelle impression il a quand il voit ce couple?
Il s'en souvient très
bien.
Il
descend quand même d'un avion militaire.
L'avion militaire a été dépêché de Paris. Ouais. Son supérieur hiérarchique lui a dit, écoute, voilà, il faut que tu me maries ces vedettes, trouve-moi un maire. Il sait qu'il est débrouillard. Le général Février sait que Demi-Colonna Cesari est débrouillard et qu'il va lui trouver un maire corse qui acceptera de ne pas publier les bans et qui acceptera quelques petits arrangements avec la vérité, comme le fait d'ailleurs toujours Romain Gary. C'est-à-dire que, par exemple, on va domicilier Romain Gary dans le village de Sarrola parce que c'est plus simple, etc. Donc il les voit arriver sur le tarmac et il se souvient très très mal bien du visage de Zensiberg et du gentil sourire qu'elle lui fait. Elle ne correspond pas, je pense, au canon de la beauté corse des Colombins, tel que lui les rêve, et Dieu sait s'il aime les femmes. Et puis Romain Gary, il a ce côté un peu raide comme ça, il ne sait pas très bien à qui il a affaire, mais il exécute les ordres et c'est vrai qu'il sait très bien, si on lui confie tellement de missions, d'abord c'est un agent secret, il l'accueille en civil, hein, mais si on lui confie tellement de missions, c'est qu'il réussit toujours tout ce qu'il fait.
C'est-à-dire que Romain Gary est un agent secret?
Demi-Colonna Cesari est un agent secret.
D'accord.
Et si, je pense, le mariage lui est confié, c'est à la fois parce qu'il appartient aux services secrets qui sont, à l'époque, chapeautés par la sécurité militaire et qui sont chargés de lutter contre l'OS, et aussi parce qu'il est corse. Et en Corse, quand on prête serment, quand on dit « je ne parlerai pas », on fait une croix sur ses lèvres, un peu d'ailleurs comme Belmondo et Jane Seberg dans « À bout de souffle », et on dit « aqua in boca », ça veut dire qu'on ne parlera jamais.
Ça veut dire que ce mariage a été organisé par les services secrets?
C'est ce que j'entends dans votre... ne savait pas. Effectivement, Romain Gary, qui aime les grandes histoires pas banales, il se dit « il faut que je sème les paparazzi, il faut que je me marie alors que tout ça est très précipité, je ne veux pas que les bancs soient publiés parce que je ne veux pas qu'on sache que je vais me marier », donc il demande au général Février, qui est le chef des services secrets de l'époque, mmh, et qu'il a connu dans un bombardier en 1943 au-dessus des côtes du littoral de la France. Vous savez ce que c'est que les amitiés gaullistes, on peut tout demander, même les années n'effacent pas ces amitiés-là. Et il dit, écoute, trouve-moi une solution, je veux me marier. Et à ce moment-là, le chef des services secrets demande à son meilleur subordonné, Demi-Colonna Cesari, le danseur de tango, d'organiser la noce.
Alors le mariage est vite exécuté, c'est ce que vous raconte Domi, qui est l'agent secret qui a assisté au mariage et qui a pris la photo.
Il trouve que tout ça va très très vite. Il est frappé par l'air un peu nostalgique, un peu triste de la mariée. Il est surtout frappé par son âge, parce qu'elle est entourée de quinquagénaires, y compris lui. Et il se dit, mais elle n'est pas à sa place, qu'est-ce qu'elle fait là? Et de fait, c'est triste cette journée, d'une certaine manière, pour cette jeune mariée qui n'a pas d'amis, qui n'a pas son petit garçon, puisque son petit garçon n'est pas là.
Qui n'a pas de bouquet de mariée. Enfin si, mais rapidement arraché au maquis, c'est ça?
Voilà. On ne pouvait pas lui offrir des orchidées. Ou ça ne ressemblait en rien au premier mariage qu'elle avait fait avec le jeune François Moreuil. C'est un mariage à la sauvette, à vrai dire, en catimini. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, un mariage, ça raconte beaucoup de choses. Et c'était un peu le point obscur, le point noir des biographies qui avaient été consacrées à l'un et l'autre.
Est-ce qu'ils savent, quand ils arrivent en Corse, où ils vont se marier, dans quel village?
Pas du tout.
Même pas.
Pas du tout. Ils ne connaissent pas bien la Corse. Romain Gary l'apercevait au loin quand il écrivait à Roquebrune, dans le sud de la France, puisque sa première épouse avait acheté une sorte de vieille bergerie, étable, là. Et Jane Seberg n'a jamais mis les pieds. Et d'ailleurs, on voit qu'elle a mis des escarpins plats en chevreau, qu'elle n'a pas mis ses chaussures à talons, comme elle le fait d'habitude, parce qu'elle se dit, au fond, l'imagerie de la Corse à l'époque, oui, c'est quand même un peu...
On va peut-être faire un peu de randonnée avant d'arriver.
Bandit de grand chemin, et donc elle ne sait pas très bien où elle va, c'est mystérieux.
Ils vont repartir, ce couple aussi vite qu'ils sont arrivés, et puis Romain Gary va lâcher une phrase avant de partir, qu'une femme du village de Sarola va capter, va entendre. Qu'est-ce qu'il dit avant de partir? Alors, il dit, je vous écrirai un petit mot quand vous pourrez parler.
Est-ce que j'ai dit ça au maire de Sarola? Il dit, quand vous pourrez parler, je vous le dirai. Et le secret tient 5 jours, pas plus, parce qu'une fuite doit arriver de Paris. Et pendant 5 jours, le maire, avec une belle obstination, et ment à tous les journalistes qui viennent. Alors, tout le monde lui dit, mais enfin, pendant 5 jours, rien ne se passe. Et puis après, la fuite vient de Paris. Alors, des journalistes de tout le pays du monde sont dépêchés à Sarola. Lui, il est dans ses vignes parce que la récolte a été très mauvaise. Il a beaucoup plu. Les vendanges sont très tardives. Il est dans ses vignes. Il voit arriver le correspondant du Los Angeles Times, le correspondant du Herald Tribune. Et il a cette phrase merveilleuse que j'ai retrouvée dans les coupures de presse de l'époque, il dit, au fond, j'ai tenu plus longtemps qu'une urne, puisque j'ai tenu 5 jours.
C'est beau.
C'est joli. Mais c'est où Sarola, tiens, d'un mot?
C'est à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio. C'était un petit village à l'époque qui aujourd'hui s'est beaucoup agrandi et qui descend jusqu'à constituer presque la banlieue d'Ajaccio. Mais c'est un petit village de la vallée de la Gravonne, sur son versant ensoleillé. Et le village ressemble à tous les villages corses, une petite place, un monument aux morts, que j'ai regardé avec fascination parce que c'est toujours très étonnant de voir en Corse le peu de noms qu'on trouve sur un monument aux morts. Et je me suis dit, au fond, je pense que Romain Gary avait plus de pseudonymes qu'il y a de noms sur ce morceau de pierre.
Mais vous connaissez l'adage, les histoires d'amour finissent mal en général, et celle-ci n'échappera pas à la triste prédiction. Romain Gary et Jane Seberg, suite et fin, c'est dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Clint Eastwood, Ariane Chemin, et ce n'est pas neutre de dire ça. Qu'est-ce qui se passe entre Jane Seberg et Clint Eastwood lors de ce tournage?
Un coup de foudre. Je pense à coup de foudre. On a longtemps dit que Clint Eastwood ne l'avait pas regardé, que c'était une passade comme les autres, pas du tout. Et d'ailleurs, il l'a raconté dans ce très beau documentaire d'Alain Dreux, dont nous avons entendu des extraits au début de l'émission. Il a dit « I was kind of nuts about her ». Il était fou amoureux d'elle, et elle aussi. Pour une raison particulière, je pense, c'est qu'il ressemblait à l'idéal, elle l'a d'ailleurs dit plus tard, elle l'a confié à quelques personnes que j'ai rencontrées, c'était l'idéal américain de son père, Clint Eastwood. Il était le héros américain parfait. Et je pense que ça, voilà, elle s'est précipitée, ça a été une histoire insensée et qui a précipité le divorce avec Romain Gary, puisque Romain Gary, qui aime toujours les histoires chevaleresques, s'est précipité sur le tournage et a tenu sur le tournage même du film une conférence de presse à laquelle le petit Diego a assisté, qu'il raconte dans un très joli roman qui a beaucoup de vrai, qu'il a écrit il y a quelques années, et il assiste à cette conférence de presse.
Donc pour ceux qui nous rejoignent,
prendre la main.
Le petit Diego, c'est le fils de Romain Gary et de Jane Seberg,
voilà,
c'est ça.
Pour prendre la main, Romain Gary tient une conférence de presse
sur le lieu du film
pour annoncer son divorce.
Et alors pourquoi l'histoire d'amour qui avait l'air merveilleuse entre Clint Eastwood et Jane Seberg n'a pas duré?
Ça, c'est le mystère, un mystère qui leur appartient. C'est, voilà, c'était très, très compliqué. Elle écrit une très jolie lettre à Romain Gary après, parce, pour dire, voilà, je t'ai fait de la peine, je sais que je t'ai fait de la peine. Et c'est, d'ailleurs, tout le côté merveilleux de leur amour, c'est que même après leur divorce, ils continueront à se parler avec douceur, avec égard, à être finalement très présents l'un pour l'autre.
D'ailleurs, Romain Gary, preuve de leur très grande proximité, va confier un grand secret, son grand secret identitaire, littéraire, à Jean Seberg.
Oui, elle fait partie des rares personnes qui étaient dans la confidence. Il écrivait sous pseudonyme. C'est-à-dire que Émile Ajar, c'était lui. Il avait confié le rôle à un petit cousin, Paul Pavlovitch, mais elle a fait partie des quelques personnes qui étaient dans la confidence et qui n'a jamais rien dit. On mesure l'attachement de Romain Gary à Jean Seberg aussi à ça.
Ils ont divorcé en juillet 70. Vous dites qu'ils sont restés proches. À quel point ? C'est-à-dire qu'ils continuaient de se voir, ils continuaient de se...
C'est un couple, en fait. On a toujours parlé de la fragilité de Jean Seberg, mais Romain Gary, on l'a dit, était aussi fragile. Mmh. Je pense que c'était deux personnes très émotives, mal dans leur peau, mal dans le siècle. Et au fond, ce que je trouve magnifique, et ils l'ont raconté l'un et l'autre à différentes personnes qui me l'ont confié, c'est qu'ils disaient l'un et l'autre... Elle disait « Romain ne peut pas vivre sans moi, il faut que je sois là ». Et lui disait « Jane, sans moi, elle n'existe pas, elle n'y arrivera pas ». Et donc c'est assez merveilleux, ils sont comme des béquilles l'un pour l'autre. Et au fond, ce que j'ai aimé dans l'histoire de ce mariage, c'est que ça raconte le mystère de l'amour. C'est qu'au fond, on ne sait jamais comment les gens s'aiment, à quel point ils s'aiment.
Pourquoi
ils s'aiment, quand ils s'aiment, comment ils s'aiment. Et je trouve que ce couple raconte tout ça, au fond.
Et puis un jour d'été 1979, on apprend que le corps de Jean Seberg est retrouvé. Dans quelles conditions ?
Il est retrouvé à l'arrière d'une voiture, une Renault 5 à Paris, et elle est morte depuis quelques jours. Elle a laissé un petit mot sur du papier bleu pour son fils en disant « Diego, je n'en peux plus, elle sait qu'elle devient folle » et elle laisse ce petit mot à son fils en lui disant « Sois fort ».
Et il a quel âge le petit Diego à ce moment-là ?
Le petit Diego, il n'a pas encore 18 ans, il est jeune. Et un peu moins d'un an et demi plus tard, c'est Romain Gary à son tour qui va se tirer une balle dans la bouche en laissant ce petit mot très mystérieux qui peut-être a été le point de départ de mon récit et de mon enquête qui est rien à voir avec Jean Seberg. Mais le problème, c'est qu'on sait que Romain Gary, il ment tout le temps.
On et ça veut jamais. Dire l'inverse ?
C'est au lecteur de se faire une idée. Je me suis dit, au fond, est-ce que c'est un déni ? Est-ce que c'est la vérité ? Et je suis partie du jour de leur mariage pour essayer de démêler cette énigme sentimentale.
Et vous le racontez dans ce livre, Ariane Chemin, Mariage en 12, Gary et Seberg, qui est publié aux éditions Équateur. Vous l'avez rencontré, Diego ? Vous avez rencontré leur
Diego
fils ?
Diego Gary, il n'aime pas rencontrer les personnes. Il m'a gentiment prêté la photo par le biais de son avocat.
Ouais.
Et je dois dire que je n'ai pas insisté parce que je pense que... je sais une chose, il se trouve que je l'ai croisé lors d'études que j'avais faites en Hippocagne. Et je pense que c'est qu'un garçon... D'abord, je me souviens de sa beauté. C'est qu'un garçon très brillant. Qui a écrit d'ailleurs un livre merveilleux, qui est un livre d'écrivain, je dois dire. Mais j'avais pas envie de l'ennuyer avec ses souvenirs douloureux.
Quelle vie il a eu avec ses parents, Diego Gary, sa mère qui était souvent en tournage, et Romain Gary qui suivait sa mère ?
Au fond, ce qu'il raconte très très bien dans son livre, c'est qu'il avait une nounou qui s'occupait de tout, qu'il aimait beaucoup, il a beaucoup souffert à la mort de sa nounou. Et cette nounou, ce que personne n'a vraiment compris, c'est le modèle de Madame Rosa dans La vie devant soi. Écrit par Émile Ajar, mais le livre, il le fait pour son fils aussi. Et cette vieille dame qui n'arrive pas plus à monter les escaliers parce que ses jambes sont trop lourdes, c'est la nounou de Diego et c'est très touchant quand on le sait.
Deux jours après la découverte du corps de Jean Seberg, Romain Gary tient encore une conférence de presse chez l'éditeur Gallimard, cette fois. Qui accuse-t-il de la mort de Jean Seberg ?
Le FBI, et il n'a pas tort. Jean Seberg, elle a pris fait et cause pour la cause noire américaine et un peu plus tard, même carrément, pour les Black Panthers qu'elle aide financièrement. Et puis, elle a un certain nombre... c'est une femme qui tombe amoureuse assez vite et très sincèrement, je crois. Et elle est amoureuse d'un jeune Mexicain qu'elle a rencontré. Elle est enceinte d'une petite fille. Et Hoover, on sait aujourd'hui, hein, parce que c'est très facile d'avoir accès aux archives américaines, décide qu'on va faire courir l'idée et le bruit dans les journaux qu'il le relaie, dans les journaux américains qui le relaient, qu'elle est enceinte d'un Black Panther. C'est le titre de une de nombreux journaux américains. Elle, elle sait que ça n'est pas vrai et elle devient comme folle. Elle se réfugie en Suisse, elle fait une fausse couche à cause de l'annonce de ces fausses vérités. Elle est obligée d'exhiber le cercueil de sa petite fille pour montrer qu'elle n'est pas noire, non pas du tout qu'elle ait honte d'avoir un enfant noir, mais sauf que ça n'est pas le cas et elle a appris la vérité parce que c'est une petite fille protestante qui a été à l'école du dimanche, on lui dit il faut dire la vérité dans la vie. Elle est
va montrer le corps de son enfant mort.
Dans un cercueil en verre, elle est obligée de faire ça pour montrer que le FBI ment et que les journaux mentent. Les journalistes qui ont écrit ça, d'ailleurs américains, sont toujours vivants et ils ont écrit. Et ça révulse aussi Romain Gary, qui accuse effectivement lors de cette conférence de presse le FBI de l'avoir tué et il n'a pas tort.
C'est-à-dire que cette pression l'a rendue folle et a pu la pousser au suicide.
Elle s'est fragile et elle a été poussée au suicide à cause de ça. Comment vous vivez quand vous avez un appareil comme ça répressif d'État qui dit l'inverse de ce dont vous savez que c'est la vérité? C'est atroce.
Ariane Chemin, c'est quoi le moment le plus heureux dans la vie de ce couple?
Je pense que le moment le plus heureux, c'est juste après leur rencontre, quand elle s'échappe de l'hôpital et qu'ils partent en voyage au bout du monde et qu'ils vivent leur amour fou en cachette. Mais on ne sait jamais quel est le moment le plus heureux dans la vie d'un couple. Et la preuve, c'est que pour ceux qui pensent qu'au fond, Romain Gary a raison quand il dit rien à voir avec Jane Seberg, quelques temps après son suicide, il remonte. Deux personnes le voient remonter dans le petit village de Sarola comme un rôdeur, comme un vagabond. Et c'est comme s'il allait vérifier qu'il s'était bien marié là avec Jane Seberg, ou alors vérifier peut-être qu'il se faisait des histoires ou pas.
Est-ce que ce mariage a bien existé? Est-ce que cette histoire d'amour a bien existé? C'est peut-être ça.
Est-ce qu'il a rêvé son histoire d'amour? Est-ce que son mariage a existé tel qu'il était dans ses souvenirs? En tout cas, il est remonté à Sarola et ça, je trouve ça magnifique.
Merci infiniment, Ariane Chemin. C'était un bonheur de vous avoir
au
micro de la curiosité. On vous lit Mariage en douce, Gary et Seberg, c'est aux éditions Équateur.
Vous écoutez RTL.